Virginie Adan, on est très content de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Nicolas Patin.
À la librairie Mola, on va vous présenter. Hein. Vous êtes normalienne, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes. Et vous avez une activité éditoriale intense, puisque, outre ce livre publié aux presses universitaires de Rennes en 2024, qui s'intitulait « Aux origines de New York, femmes et hommes dans la formation d'une société coloniale », vous avez publié cette année deux livres. Le premier, c'est 1619, l'autre naissance des États-Unis, donc chez Humensis, PUF, mars 2025, 190 pages, donc un essai assez percutant, qui a assez bien marché, très bien marché. Et puis aujourd'hui, ce livre-là, paru lui aussi en mars 2025, vous n'avez pas chômé, « Des femmes en Amérique, une histoire des États-Unis de Pocahontas à MeToo », chez Perrin. Donc un copieux ouvrage de 330 pages qui revient sur toutes ces histoires-là. Et on va discuter des deux livres. Mais comme vous avez déjà fait une petite vidéo, Mola, sur le premier, plutôt de celui-ci, « Des femmes en Amérique ». Alors, vous revisitez en fait cette histoire des États-Unis sur le temps long. Vous êtes en histoire moderne. J'aurais peut-être dû commencer par là, de la première modernité, donc vraiment les fondations des États-Unis. Et ça vous permet de regarder un peu cette histoire américaine, toujours au filtre aussi de sa mémoire actuelle. Ce qui me renvoie en fait à la première question et de cette date de 1619. On est habitué. En réalité, alors pour les connaisseurs, hein, tout le monde ne connaît pas par cœur l'histoire des États-Unis, mais on est habitué à cette arrivée du Mayflower en 1620, la colonisation européenne. Et vous subvertissez d'une certaine manière, dans le premier livre et dans celui-ci, cette date-là, à travers cette date de 1619, qui est cette date d'arrivée d'un certain nombre d'esclaves sur les côtes américaines. Donc ma question est toute bête. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette date-là, un regard nouveau qui intégrerait beaucoup mieux l'histoire afro-américaine ou l'histoire caribéenne des États-Unis. Pourquoi avoir choisi cette date-là ?
Alors, pourquoi avoir choisi cette date-là ? Alors, merci déjà pour cette question. Alors, effectivement, quand on fait de l'histoire des États-Unis, on a certaines dates qui sont très connues. C'est un peu comme quand on fait de l'histoire de France, on a nos dates un petit peu fétiches du roman national. Les États-Unis ont leur propre roman national. Et le début du roman national états-unien, il y a deux dates en général qui sont mobilisées. C'est 1607, la rencontre entre John Smith et Pocahontas, et 1620, l'arrivée du Mayflower. Et cette date de 1619, c'est pas de moi qu'elle vient en réalité, c'est d'un usage public qui a été fait de cette date. Alors qu'est-ce qui se passe en 1619? Effectivement, il y a deux bateaux qui sont des bateaux corsaires anglais qui débarquent sur les rivages de ce qui est en train de devenir la Virginie coloniale, des captifs africains. Qu'ils ont saisi sur un bateau qui fait de la traite des esclaves, un bateau portugais qui fait de la traite des esclaves, et ils ont fait une capture de traite dans la Caraïbe, et ils débarquent ces esclaves-là qui sont vendus. Et dans la postérité, c'est devenu connu un peu comme la première vente documentée d'esclaves sur ce qui deviendra les États-Unis. Ce qui est très téléologique dans la formulation, hein, on est bien d'accord, mais ce qui montre que c'est une création purement... historienne, en fait, cette date-là, puisqu'elle a été mobilisée dès le 19e siècle, en fait, par des historiens africains-américains, en effet, pour dire c'est le début de l'histoire des États-Unis avec l'esclavage. Une date qui était une date très états-unocentrée, d'une certaine manière, d'une histoire des Africains-américains avec l'esclavage et la discrimination. En gros, les premiers historiens à le mobiliser, c'est donc au moment des débuts de la ségrégation dans le sud des États-Unis, les débuts du long mouvement pour les droits civiques. Donc en fait, on a cette chronologie-là. Et c'est une date qui reste quand même assez marginale, parce que pour les historiens scientifiques, on va dire, les historiens universitaires, cette date-là paraît pas très pertinente. Parce qu'elle paraît, c'est pas les débuts de l'esclavage aux États-Unis. Il y a plein de choses qui peuvent, enfin, déjà parler des États-Unis au XVIIe siècle, on a un petit problème de chronologie. Et puis il y avait des esclaves sur le continent nord-américain bien avant 1619. Il y avait des esclaves d'origine africaine sur le continent nord-américain avant 1619. Donc vraiment voilà, c'est une création purement historienne et africaine-américaine. Elle est marginalisée pendant un certain temps et elle est remobilisée en réalité à partir de des premières décennies du XXIe siècle, donc dans une temporalité assez récente, et notamment à l'approche de 2019, donc des 400 ans de cette date-là, puisque un certain nombre d'associations, citoyennes, notamment de militants africains-américains, notamment, veulent faire la promotion de cette date-là comme une date fondatrice des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, et donc veulent commémorer cette date de 1619 en 2019 en disant il faut qu'on ait un récit des origines africains-américains. Et alors, c'est très intéressant parce que ça pose la question de l'utilité d'un récit des origines. Qu'est-ce que ça apporte de créer un récit des origines, de créer un roman national africain-américain ? Et donc, ça permet de voir l'émergence dans l'espace public d'une volonté de faire une histoire peut-être un peu à parts égales du passé des États-Unis. Et avec l'idée que réinstaurer un récit des origines africain-américain, c'est donner à la population africaine-américaine des États-Unis un ancrage dans l'histoire des États-Unis et une légitimité dans l'espace public, dans l'expression, dans l'espace public. Et c'est important puisque cette date, elle correspond à la fois à un point de départ de l'histoire des États-Unis avec l'esclavage, et elle est vue aussi comme un point de départ d'une histoire des contributions des Africains-Américains à l'histoire des États-Unis. Donc on est vraiment dans la reconstruction très a posteriori. Mais c'est intéressant de voir justement la mobilisation d'un passé utile, en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est pour la genèse de cette date-là. Après, maintenant, son utilité quand on est historien ou historienne de l'époque moderne, l'utilité de cette date, elle a longtemps été, donc, comme je le disais, assez marginale, parce que c'est une date qui est très états-unocentrée. Quand on fait de l'histoire moderne du monde atlantique, l'expression monde atlantique dit un petit peu ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des interconnexions entre des empires, entre une grande variété d'acteurs et d'actrices géopolitiques, socio-économiques, etc., etc. Et donc, avoir cette date qui est très étriquée sur l'histoire des États-Unis n'a pas grand sens. Par contre, en fait, quand j'ai commencé à faire cet ouvrage-là, ce qui m'a frappé dans cette date-là, c'est à quel point, justement, elle était transnationale. À quel point ce n'est pas juste une date états-unocentrée, finalement. Puisque, en fait, on part d'une vente d'esclaves sur le sol virginien, mais avant cela, on doit remonter ce trajet. C'est ce que j'ai cherché à faire aussi dans mon ouvrage. On remonte ce trajet sur les côtes de l'Angola portugais. On retourne à l'intérieur des terres, dans le royaume de Ndongo, l'Angola portugais. Les interconnexions entre les puissances ibériques pour la mise en place d'une traite transatlantique des esclaves africains. On parle de la guerre de course dans la Caraïbe. Et ensuite, de la place de l'esclavage dans la formation d'une société coloniale. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette date-là, c'est qu'elle dit aussi, elle n'est pas exceptionnelle, finalement. Ce n'est pas un point de départ, mais justement, c'est peut-être une date qui est un peu ordinaire à l'échelle du XVIIe siècle. Elle dit vraiment l'ordinaire des circulations dans le monde atlantique.
Et alors, merci pour cette réponse. Dans le livre PUF, on voit bien que vous avez quasiment moitié-moitié la date de 1619 et la date de 2019, hein, les 400 ans, c'est-à-dire l'aspect mémoriel et ce que le présent fait au passé. Et donc ça, on y reviendra dans d'autres questions, mais l'interaction permanente entre la manière de faire de l'histoire aujourd'hui et ce que vous en faites par rapport au passé. Alors dans ce livre-là, donc des femmes en Amérique, titre intéressant, hein, il y a un côté aussi revendicatif de la démocratie en Amérique. Bon, voilà. Vous parlez en introduction d'une conversion du regard pour réintégrer les grandes absentes en fait du récit états-unien. Alors, je vais pas m'étendre, mais on sait très bien que ces dernières années, aussi dans le sillage de MeToo, il y a eu vraiment du mouvement MeToo, il y a eu vraiment une plus forte réintégration des études de genre, des études de l'histoire des femmes, etc. Et peut-être, voilà, il manquait un livre sur la question de l'histoire américaine, des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait, il y a une double invisibilisation des femmes, il y a une invisibilisation dans les sources, dans le passé. Et puis ensuite, la discipline historique qui s'est développée comme une discipline très masculine, ce qu'elle continue à être quand même beaucoup, a invisibilisé une deuxième fois ces femmes dans l'histoire. Alors, une question de méthode, mais qui n'est pas que ça, c'est aussi une question de militantisme méthodologique. vous le dites, c'est dur dans la, en étant une historienne du XVIIe siècle d'avoir accès aux femmes dans les sources. Comment vous avez fait ? Comment vous avez fait pour aller chercher ces femmes dans des sources qui sont bien souvent où elles sont absentes ou par la suite elles ont été invisibilisées encore plus ?
Alors, merci pour cette question. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, ça fait écho même au développement même de l'histoire des femmes aux États-Unis, c'est-à-dire que la pionnière de l'histoire des femmes en France, c'est Michel Perrault, pas toute seule, mais c'est elle qu'on pense en première intention. Aux États-Unis, un des premiers noms qui viendrait à l'esprit, c'est une historienne qui s'appelle Gerda Lerner, qui a créé le premier cours d'histoire des femmes à la New School à New York dans les années 1960. Et justement, elle, son point de départ, il est explicitement féministe, et il y a dans l'idée que les femmes ont été invisibilisées de l'histoire, et c'est pour ça qu'elles sont invisibilisées dans la vie de la cité et qu'on leur dénie des droits politiques ou sociaux fondamentaux. Et donc, elle a toute une réflexion là-dessus, sur l'idée qu'elle veut faire de l'histoire des femmes à l'université pour donner une clé d'émancipation aux femmes. C'est son positionnement. Donc, ce qui permet de voir justement la conjonction entre le militantisme et le dialogue avec ce qu'est la science historique, qui, en effet, s'est quand même vraiment construite un peu contre les femmes, d'une certaine manière. Même si on regarde en France, quand on connaît un petit peu les fondamentaux de la méthode historique, hein, c'est travail sur les sources doivent être de préférence des sources écrites. Au 19e siècle, ces sources écrites, c'est mieux si elles émanent d'organes étatiques. Bon, quand on ne produit pas d'écrits, on est en dehors de l'histoire. Et on le voit beaucoup dans les écrits du 19e siècle, que ce soit... Bon, alors en France, Michelet a beaucoup écrit sur les femmes, c'est vrai, mais quand il a écrit La sorcière, il a dit qu'il voulait écrire l'histoire d'une même femme pendant 300 ans. Donc en termes d'historicité, on peut se poser la question. Mais on voit des écrits même d'historiens néerlandais qui expliquent que les femmes sont un groupe privilégié parce qu'elles n'ont pas d'histoire ou des choses comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui est très présent. Les femmes sont en dehors de l'histoire. Et c'est lié en partie aux sources. À l'accès aux sources écrites. Après, je reprends le cas de Gerda Lerner. Quand elle a fait ce premier cours sur l'histoire des femmes, c'est pas la seule chose qu'elle a fait. Dans son travail, elle avait aussi édité des sources des femmes africaines-américaines. Et le pied de nez, il était évident. On est dans les années 60, on est au moment du mouvement pour les droits civiques, mais elle édite des sources sur les femmes africaines-américaines. C'est une façon de dire, si on cherche des sources, on en trouve. Et si on veut trouver une manière de faire cette histoire de catégories qui sont invisibilisées, on peut le faire. C'est vrai que les femmes sont une catégorie qui a laissé moins de traces écrites, surtout dans les périodes plus reculées. Donc moi, je travaille sur le XVIIe siècle. Effectivement, on est face à un défi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'écrits d'une multitude de femmes. Il y a quelques femmes qui ont laissé des écrits. Des femmes, en général, de l'élite marchande, puisque je travaille sur une société marchande qui est la colonie de New York. Donc les femmes de l'élite marchande ont appris à lire et à écrire et laissent de l'écrit. Mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart des femmes qui viennent soit de catégories sociales défavorisées, soit qui viennent de catégories minorisées, donc les femmes d'origine africaine, les femmes d'origine autochtone, ne laissent pas d'écrit. Et là, on est vraiment sur le croisement de deux formes de processus de domination. Hein. On est à l'intersection de ces deux formes de domination, ce qui fait que c'est difficile d'y accéder. Alors, il y a plusieurs façons d'y remédier. La première façon d'y remédier, c'est déjà d'utiliser un peu un des outils qui est pratiqué par les subaltern studies, hein, c'est de remobiliser les sources existantes, qui sont des sources qui sont produites par les hommes, pour les hommes, qui sont des cadres de pouvoir, mais aussi de déconstruire cette production de sources, de déconstruire ces cadres de pouvoir et de voir ce qu'ils disent sur des rapports de domination qui sont genrés. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Une deuxième façon de procéder, c'est d'identifier au passage les sources qui parlent des femmes. Une deuxième façon de procéder, c'est qu'il y a un fonds d'archives qui est toujours très fascinant et très précieux, c'est les archives judiciaires. Je fais référence aussi un petit peu aux travaux d'Arlette Farge à ce sujet-là, mais ça marche aussi pour les sociétés coloniales nord-américaines, qui sont des sociétés qui sont très judiciarisées, où la population va beaucoup, hommes comme femmes, va beaucoup devant les magistrats pour négocier toutes sortes de litiges du quotidien. Et donc ces litiges-là donnent à entendre des voix féminines et donne à entendre des rapports sociaux qui sont mixtes et qui ne sont pas seulement masculins. Donc on peut y accéder, mais il faut être inventif, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu ça, le défi qui peut se poser. Et en fait, dernière chose, dernière tactique aussi pour essayer de retrouver ce point de vue féminin, surtout quand on parle de catégories, des catégories subalternes, c'est d'utiliser d'autres méthodologies que la méthode historique. Par exemple, quand il s'agit de reconstituer par la place des femmes autochtones dans les sociétés nord-américaines, on a beaucoup recours aux méthodes de l'anthropologie. Ou alors à l'archéologie, qui permet de reconstituer aussi les cadres de la vie sociale, de la vie économique, et d'y réinjecter de la mixité.
Très bien. Alors, on était parti, voilà, c'est des choses qu'on est habitué à manier en tant qu'historien et historienne, mais pour le grand public ou les spectateurs et spectatrices, il y a une sorte de vision générale de l'histoire des femmes, l'histoire du féminisme, l'histoire du genre. Donc, c'est l'objet de cette nouvelle question. Quand on ouvre les livres, on se dit, alors vous voyez, c'est par personne, Anna Duston et la vie pionnière, Esther Edward Burns et l'éveil religieux des femmes. On a l'impression qu'on est finalement, et vous en parlez en intro, dans voilà, un petit inventaire à l'après-Vert de grandes femmes biographiques. Alors, ça a son intérêt. Je pense au portrait beaucoup plus grand public de culotté de ces bandes dessinées qu'on a eues ces dernières années, qui ont mis en valeur, en fait, des panthéons de femmes qui n'existaient pas. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est ce que vous faites, et vous le dites en intro, c'est que vous dites, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire une liste de biographies. Je ne vais pas faire une histoire des femmes, même si ce serait intéressant. Vous dites, je vais réécrire, reproposer un récit de l'histoire des États-Unis. Donc vous dites finalement, je ne fais pas une histoire des femmes, je fais une histoire des États-Unis, selon les rapports de genre, c'est-à-dire non pas seulement tel ou tel portrait, ce que vous faites. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle, dans ces portraits-là, on voit que tout de suite, quand vous commencez à camper vos personnages, puis vous ouvrez tout de suite sur l'époque dont ce personnage vous permet de parler. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous dites, voilà, je suis là pour écrire en prêtant attention au tissu relationnel complexe et varié entre les deux sexes. Est-ce que ça, c'était important pour vous de dépasser la simple histoire des femmes pour aller vers cette histoire du genre? Parce que bien souvent, en fait, on écrit l'histoire de ces sociétés patriarcales. Donc, c'était ça que vous vouliez faire, reprendre chaque grand dossier en fait, de l'histoire des États-Unis en essayant de mettre un projecteur là-dessus?
Alors, il y a une réponse courte et une réponse longue.
Oui.
Voilà, la réponse courte, c'est oui. Et adjointe d'un merci. Merci d'avoir compris effectivement pleinement quel était le projet qui était derrière ce livre. C'est que, effectivement, bien souvent, quand on a des ouvrages dans les librairies sur les femmes, ça suit un petit peu la démarche des culottés, effectivement, de côté de mettre en avant des vignettes qui vont être porteuses de récits émancipateurs, d'inspiration, etc., etc. D'ailleurs, j'avais écrit à Pénélope Bagieu pour lui suggérer une de mes femmes, mais elle m'a dit non, j'ai arrêté la série, donc j'étais déçue, mais je comprends en même temps. En tant qu'historienne, je trouve que ces récits émancipateurs, ils ont un intérêt en tant que lecteur, que lectrice, hein, mais je trouve qu'en tant qu'historienne, ils n'épuisent pas du tout notre compréhension de ce qu'est la compréhension, effectivement, de la construction de ces sociétés au prisme des rapports hommes-femmes et au prisme de rapports de domination, fondamentalement. Vous l'avez dit, mon point de départ, c'est que je fais de l'histoire du XVIIe siècle. L'histoire du XVIIe siècle, c'est de l'histoire d'une formation coloniale. L'histoire du colonial, c'est l'histoire de rapports de domination qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et en fait, ce qui est assez... Alors, marrant, je ne sais pas si c'est le meilleur terme que j'utilise là, mais ce qui m'a frappé en fait, quand j'écrivais cet ouvrage-là, c'était de me rendre compte à quel point le cadre colonial est pertinent sur la totalité de l'histoire des États-Unis. Et dès lors qu'en fait, on adopte une grille de lecture genrée, on voit cette colonialité présente. Et c'était aussi un peu un de mes objectifs, c'était de montrer en fait, voilà, la construction des États-Unis comme un récit qui est pas lisse, en fait, qui est fait de rapports de domination. L'un des premiers, je pense que c'est la domination genrée, c'est évidemment pas le seul, mais il vient informer d'autres rapports de domination. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, partir de femmes pour certaines bien connues, d'autres beaucoup moins. Anna Dustin, elle n'est pas très connue. Pocahontas l'est beaucoup. Rosa Parks, c'est très connu, effectivement. Mais j'ai fait exprès de prendre des femmes qui, je trouvais, correspondaient à une partie, à un pan de l'histoire des États-Unis. C'est comme ça que j'ai un peu fait ma sélection. Je l'ai faite en fonction de femmes qui sont, alors, comme on dirait aujourd'hui, iconiques, mais aussi la volonté de me dire quelle femme éclairerait le mieux tel ou tel pan de l'histoire. Je pense à Anna Dustin parce qu'elle a rien d'héroïque pour aujourd'hui, puisque c'est quand même une femme qui est connue pour avoir scalpé 8 personnes autochtones, dont 5 enfants. Donc, voilà, c'est pas forcément des personnes que je voulais... C'était pas forcément que des récits émancipateurs. C'était vraiment l'idée d'inviter le lecteur ou la lectrice à relire intégralement l'histoire des États-Unis et à se poser la question, est-ce que nos cadres de lecture de l'histoire des États-Unis tiennent-ils les preuves de l'intégration de la moitié de l'humanité dedans, en fait. On parle de la conquête de l'Ouest, le terme de conquête de l'Ouest a quelque chose de très glorieux, de très glorifié aussi dans le roman national. Dès lors qu'on y injecte les femmes, est-ce que l'idée d'une conquête coloniale, comment est-ce qu'on la comprend à nouveau frais, en fait. C'était un peu le but du jeu. Alors évidemment, je prends le cas de la conquête de l'Ouest, évidemment ce terme-là n'est plus du tout utilisé par les historiens hein, et les historiennes qui ont remis largement en question ces récits-là, mais précisément, mon objectif c'était de mettre en avant la complexité de cette histoire et la complexité telle qu'elle a été restituée par les travaux d'historiennes et d'historiens depuis une bonne cinquantaine d'années aussi. Je tiens à le préciser aussi, c'est que cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui est grand public, mais c'est un ouvrage de... Je me dis que j'ai réussi si j'ai donné envie aussi aux lecteurs et aux lectrices de lire d'autres livres sur l'histoire des États-Unis, parce qu'en fait, ça a vocation aussi à être une synthèse de certains... champ de certains débats historiographiques qui ont été ouverts par des historiennes et des historiens depuis une cinquantaine d'années.
Alors là c'est pas l'objet, je ne travaille pas pour les éditions Perrin, mais effectivement, pour le coup, je peux le dire, le pari est doublement réussi. Le livre, même si le sous-titre dit « De Pocahontas à MeToo » pour qu'on identifie bien ce de quoi ça parle, il y a effectivement, j'ai apprécié, sans que ce soit trop lourd, mais toujours les références au type de débat historiographique qui pose la question. Et si c'était votre objectif, pour ce qui est que il suffit de lire l'index, enfin le sommaire, excusez-moi, mais on voit tout de suite ce côté de comme un voyage qui revisite en fait les grands thèmes des États-Unis, la frontière, les années 20, la prohibition, et ça on le voit très très bien déroulé, donc c'est très très bien réussi. Alors maintenant qu'on a posé tout ça, alors je rebondis juste sur une chose, c'est intéressant ce que vous dites sur la domination. Je pense à un auteur qu'on a reçu ici, Gérard Noiriel, qui, dans son Histoire populaire de la France, qui dérivait de l'Histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, dans ce livre-là, il dit très bien qu'en fait, on ne peut pas faire une histoire des subalternes aussi globale. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a essayé de faire, d'interroger le lien de domination. C'est quoi l'histoire de la domination? Et je pense que vous l'avez, d'une certaine manière, ça aurait pu aussi s'appeler Histoire populaire, mais vous avez choisi ce côté, dans les cadres de domination, de s'intéresser à ceux de la domination genrée. Alors quand même, maintenant que la méthode est éclaircie, on ne va pas faire un voyage dans chacun des portraits et chacune des personnes, mais on peut regarder. Alors évidemment, en tant qu'ignorant absolu, y compris, je dois le dire publiquement, n'ayant jamais vu Pocahontas, le dessin animé, pourquoi commencer par elle? En quoi c'est intéressant? Est-ce que c'était le point de regard de cette société coloniale? De partir, qui est-elle? Enfin voilà.
Alors pourquoi partir de Pocahontas? Effectivement, parce que on évoquait tout à l'heure les mythes fondateurs. On évoquait 1619-1620, et en fait, un des premiers récits fondateurs de l'histoire des États-Unis, du roman national états-unien, c'est 1607. C'est la fondation de Jamestown. C'est la première colonie anglaise pérenne sur le continent nord-américain, pérenne, parce qu'il y a eu d'autres initiatives coloniales antérieures à cela, mais qui ont périclité, celle-ci, elle tient bon, et elle est associée à ce récit de rencontre, et on en a dit tout et son contraire. Donc c'est ça que j'avais trouvé intéressant. Et en plus, il est centré sur un personnage féminin. Quand on veut écrire une histoire des États-Unis au prisme des femmes, c'est pas mal. Et l'autre élément qui a pu guider mon choix, c'est que quand on veut parler de l'histoire des États-Unis, difficile de ne pas parler des peuples qui étaient là avant l'arrivée des colons. Donc voilà, c'était, elle était un peu whole package d'une certaine manière. Alors Pocahontas, qui c'est ? Alors on la connaît par plein de récits. Alors évidemment, le premier auquel on pense, c'est Disney. Et c'est vrai que l'un des éditeurs chez Perrin m'avait dit « Ouais, enfin, c'est quand même très pop culturel. » En fait, moi, j'avais oublié que c'était un personnage pop culturel. Pour moi, c'est un personnage historique. Mais effectivement, dans le dessin animé Disney, qu'est-ce qu'on a ? On a le récit tel qu'il a été mis en avant, surtout au 19e siècle, c'est-à-dire l'histoire d'amour passionnée, passionnelle entre John Smith, un bel Anglais, un bel aventurier anglais, et Pocahontas, une jolie jeune femme qui tombe follement amoureuse de lui et donc qui lui sauve la vie quand il est capturé par les Powhatan, qu'il est sur le point d'être exécuté. Elle lui sauve la vie, ils apprennent à se comprendre l'un l'autre, ils tombent amoureux, malheureusement, lui doit partir, mais leur histoire d'amour est le point de départ de la nation des États-Unis, etc., etc. Donc ça, c'est un peu l'histoire telle qu'elle est racontée au 19e siècle, telle qu'elle est reprise par Disney, qui injecte un petit peu un fond de « les temps ont changé, on est dans les années 1990, donc on va plutôt dire que vraiment la colonisation, c'est pas très bien, qu'en fait, on avait du mal à se comprendre, mais qu'il faudrait qu'on arrive un peu mieux à se parler, etc. » Mais on voit, en fait, voilà l'idée que l'histoire des États-Unis, c'est une rencontre avant tout. Donc c'est un récit. Bon,
comme ça, j'ai plus besoin de voir le dessin animé, c'est pas mal.
Voilà, il y a la grand-mère feuillage aussi. Parce qu'en fait, Pocahontas est tellement une autochtone que sa grand-mère est un arbre.
Ok.
Voilà, d'accord. Donc bon. J'espère que j'ai achevé de vous vendre Pocahontas.
Je suis ravi.
dans le récit originel, c'est-à-dire celui du XVIIe siècle, il y a des sources qui parlent de Pocahontas au XVIIe siècle, bien sûr. Le principal récit que l'on ait, c'est celui de John Smith lui-même. John Smith qui donc est un agent de la compagnie de Virginie, une compagnie à charte qui va coloniser la Virginie. Et c'est un aventurier. Il a déjà vécu 1000 vies avant d'aller en Virginie. Il est passé par l'Europe du Sud, par la Barbade, enfin par plein d'endroits. Et quoi qu'il arrive, quand il arrive en Virginie, il se fait effectivement capturer par les Powhatan. Ça, on a ça qui est documenté et on sait qu'ensuite il est sauvé. Alors, les premières sources d'autour de 1607-1608 ne disent pas par qui il est sauvé. Lui, il écrit un récit en 1624 dans lequel il explique qu'il a été sauvé par Pocahontas et il raconte l'histoire. Il explique qu'il a été sur le point d'être exécuté et qu'une petite fille lui a sauvé la vie. Donc, Pocahontas, il l'a décrit comme une fillette de 11 ans qui était la fille du roi des Powhatan, donc Wahun Senako, qui est le chef suprême donc de la Confédération Powhatan, et sa fille Pocahontas est une fillette de 11 ans qui lui sauve la vie et ensuite qui accompagne souvent les Powhatan, les délégations Powhatan à Jamestown pour apporter des vivres aux Anglais. C'est ce qu'il raconte, hein, John Smith. Et ensuite, son récit s'arrête à peu près... ensuite, il explique... grâce à elle et à Dieu, nous avons survécu. Et en gros, il dit, c'est juste après Dieu, c'est grâce à elle qu'on doit la survie de cette colonie. Pourquoi il raconte ça ? On est en 1624, John Smith est revenu en Angleterre depuis longtemps, il a été renvoyé en Angleterre en 1609, et en fait, il écrit au roi et à la reine d'Angleterre pour leur parler de cette jeune femme désormais, puisqu'en fait, Pocahontas a continué de vivre après, et elle a fait un voyage diplomatique en Angleterre, en 1616. Et donc, John Smith aurait écrit une lettre au roi et à la reine d'Angleterre qui se serait retrouvée dans l'ouvrage de 1624. Et donc, il écrit au roi et à la reine d'Angleterre pour leur vanter les mérites de Pocahontas. Et en fait, ce qu'il explique là, c'est qu'on peut convertir, on peut dialoguer avec les, avec beaucoup de guillemets, sauvages. Donc, on peut les convertir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Pocahontas par la suite ? C'est qu'elle est devenue otage des Anglais. qu'elle s'est convertie au christianisme, qu'elle a épousé un Anglais, qu'elle a eu un enfant avec cet Anglais, et qu'ensuite, elle est partie en délégation diplomatique en Angleterre, dont elle n'est pas repartie parce qu'elle est tombée malade et elle est morte avant de retourner en Amérique. Mais à l'époque, quand on raconte l'histoire de Pocahontas, on raconte une opportunité coloniale. On raconte la possibilité de convertir les Indiens, là aussi avec des guillemets, la possibilité de convertir, la possibilité de s'installer et d'évangéliser ces terres. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est une femme qui a été instrumentalisée pour d'autres récits. Dernier point qui est intéressant sur l'histoire de Pocahontas, après je m'arrête sur ce tunnel. Dernier point qui est intéressant avec Pocahontas, c'est qu'il y a une grande silencieuse dans cette histoire-là, c'est elle-même. C'est qu'on n'a pas d'écrit de Pocahontas, on ne connaît pas son point de vue. Par exemple, on sait qu'elle s'est convertie, on sait qu'elle s'est mariée. On ne sait absolument pas si tout ça a été consenti. Mais on sait qu'elle a bel et bien existé et se pose désormais la question pour les historiennes, les historiens, les anthropologues, d'essayer de reconstituer ce qui pouvait être à elle son univers mental et son approche de tous ces événements.
Alors merci, je pense que tous les fans de Disney sont maintenant soit... voilà, sont très informés et peut-être un peu, voilà, c'est toujours la même chose quand le mythe de Disney tombe pour la réalité historique, mais c'est bon, on voit tout l'intérêt qu'il y a à poser ces questions-là par rapport à des symboles. Le deuxième symbole dont j'avais envie de parler avec vous, c'est ce que vous disiez, les montes atlantiques, c'est évidemment ce qu'on appelle aussi les révolutions atlantiques, parce qu'en France, on a le nez dans 1789, mais quelques années avant, il y a eu 1776 et la révolution américaine, la guerre d'indépendance. Et c'est vrai que dans ce paysage-là, qu'on connaît un petit peu, pour certains, parce qu'il y a les billets de banque aussi, il n'y a que des hommes. Il y a George Washington, il y a tout Jefferson, etc. Mm. Et dans votre chapitre, vous interrogez donc un personnage historique, Abigail Adams, qui est la femme de John Adams, et qui, au moment où il prend ses responsabilités politiques dans cette révolution-là, elle lui dit « Remember the ladies ». Pense aux femmes ou n'oublie pas les femmes. Et on a donc ce personnage-là, si vous pouvez un peu nous la décrire, dont moi, avec ma culture assez faible sur la question, je me suis demandé si c'était... Je trouvais que c'était hésitant dans le chapitre, entre une sorte d'Olympe de Gouges américaine, qui aurait demandé la déclaration des droits de l'homme et des femmes, ou, au contraire, vous le dites un peu, une sorte de première dame, alors en l'occurrence c'est la deuxième, mais la deuxième première dame de l'histoire des États-Unis, donc ce personnage de Abigail Adams, qu'est-ce qu'elle nous dit de cette révolution américaine? Est-ce que, alors pour être un peu plus précis, on sait que pour la révolution française, il y a les travaux d'Elias Viennot, ils disent « et la modernité fut masculine », c'est-à-dire qu'en fait la révolution française a été une assez mauvaise nouvelle pour les femmes. Est-ce que pour les États-Unis c'est pareil? Est-ce qu'on le voit à travers le portrait d'Abigail Adams ou pas du tout?
Alors, effectivement, le personnage d'Abigail Adams, pareil, en fait, c'est un peu comme pour Pocahontas, il y a des choses qu'on a cherché à lui faire dire. Et effectivement, ce « Remember the ladies », ça peut passer pour une phrase d'émancipation féministe folle. Et ça l'est en partie, mais seulement en partie. C'est-à-dire que, déjà, ça pose la question dans quel contexte elle a dit ça. Elle l'a dit dans une lettre qu'elle écrit à son mari. Donc, Abigail Adams, c'est avant tout... Alors, c'est dur quand on fait de l'histoire des femmes, quand on dit « oui, il faut mettre les femmes au premier plan » et tout. Abigail Adams, c'est une épouse. C'est l'épouse de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle se présente la plupart du temps. Abigail Adams... Mais être une épouse, attention, c'est pas du tout dénigrant, en fait. Mais Abigail Adams, c'est l'épouse de John Adams, et c'est dans ce cadre-là qu'elle lui parle de la condition des femmes mariées. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est une épouse, parce qu'en fait, c'est de ça qu'elle parle quand elle dit « Remember the ladies ». En fait, elle écrit à John Adams, parce qu'il lui dit « on est en train de rédiger un texte, on est en train de réfléchir à quelque chose », et parce qu'en fait, elle lui dit juste avant « I long to hear that you have declared an independence ». On est en mars 1776, c'est quelques mois avant la déclaration d'indépendance, mais il y a déjà un texte en préparation, et elle lui dit « et dans le texte de loi que vous prévoyez de faire, je veux que vous n'oubliez pas les dames et que vous soyez plus généreux envers elles que vos prédécesseurs, parce que tous les maris sont des tyrans, s'ils le peuvent. » Et en gros, c'est... Alors, ce qui est hyper intéressant dans cette phrase, c'est qu'elle mobilise donc le vocabulaire de la tyrannie. On est vraiment dans une réflexion politique de sciences politiques qui est assez, assumée. Mais, en fait, elle parle de la condition des femmes mariées. Et moi, je trouve... ce qui a beaucoup été dit, notamment par les historiens, c'est de dire on a fait un contresens à y vouloir y voir une déclaration féministe, parce qu'en fait, elle écrit juste à son mari. C'est un jeu d'esprit entre elle et son mari qui lui répond « c'est bon, on est déjà sous la tyrannie du jupon et le débat est oublié ». La seule raison pour laquelle on a accès à cette phrase-là, c'est qu'Abigail Adams n'a pas fait quelque chose que la plupart de ses contemporaines ont fait. Les épouses de grands hommes politiques ont toutes brûlé leur correspondance. Elle ne l'a pas fait. Elles ont brûlé leur correspondance parce que c'était des correspondances privées qui n'avaient pas vocation à devenir publiques. Typiquement, Martha Washington a tout détruit. Parce qu'elle ne voulait pas... c'était sa vie privée. Et elle savait qu'étant l'épouse d'un homme public, cette correspondance aurait, lui serait...
Horreur de l'historien.
Non, mais voilà. Les historiens sont en sueur. Ouais, c'est un petit peu ça. Et Abigail Adams, sa correspondance est restée. Et on a une correspondance très suivie. C'est un couple qui s'entendait très bien, qui échangeait quotidiennement et qui se soutenait. Donc Abigail Adams, ça a été à la fois... Donc c'est une épouse d'eux qui a soutenu son époux et donc en fait a beaucoup échangé avec lui sur beaucoup de sujets, qui a suppléé son époux quand il était absent, donc ce qui fait qu'elle est devenue chef de maison quand il était absent, c'est-à-dire beaucoup de fois, parce que quand il était au Congrès continental ou en délégation en France, avant qu'elle le rejoigne, etc., etc., c'était elle qui était la maîtresse de maison. Ce qui impliquait beaucoup de choix très difficiles, surtout qu'elle vivait dans le Massachusetts, ce qui était un champ de bataille à l'époque, hein, qui est Braintree, la ferme de Braintree. Elle disait qu'elle entendait les bruits des combats. Elle disait qu'elle entendait les bruits des combats. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas anodin. Ça rappelle que même les femmes les plus domestiques étaient au cœur de la Révolution américaine d'une manière générale. Mais je reviens à est-ce que c'est féministe ou pas féministe. En même temps, je trouve que cette déclaration, elle est hyper intéressante. Parce que quand elle dit « si vous êtes en train de rédiger un nouveau code de loi, pensez aux femmes, pensez à ce que c'est que le mariage ». C'est quel est le projet de société que vous voulez construire, en fait? C'est quoi la société que vous voulez? Est-ce qu'on pense à tous les aspects de la société, en fait? Et donc, elle a une vision, en fait, assez holistique de ce qu'est de ce que c'est qu'une révolution. Et elle le pense en termes révolutionnaires. Pour le coup, elle a une pensée qui est véritablement révolutionnaire. Est-ce qu'on change complètement les fondements de la société? Ce serait bien de le faire. C'est ça qu'elle est en train de dire à John Adams. De plus en plus, l'historiographie voit, et ça rejoint un peu ce qu'on dit sur la Révolution française, voit la Révolution américaine. Alors, de très longue date, on voit la Révolution américaine comme une révolution plutôt conservatrice, plus conservatrice que la Révolution française, certainement. De plus en plus aussi, on va en parler comme d'une évolution plutôt que d'une révolution. C'est-à-dire que finalement, il y a un continuum qui est... Il y a certes une rupture avec le Royaume-Uni, mais il y a quand même un continuum avec la période coloniale et... Enfin, les États-Unis restent un État colonial en réalité, et il y a une perpétuation de certains cadres, ce qui fait que il n'y a pas d'émancipation des Noirs, l'esclavage est maintenu, la question autochtone est durcie après l'indépendance des États-Unis, et la question des femmes, se voient dénier les droits politiques. Alors que, un peu comme pendant la Révolution française, les femmes ont participé à la Révolution. Elles ont participé aux émeutes. Elles ont été un des pivots des boycotts, de la politique de boycott, puisque c'est elles qui étaient les productrices. Elles ont permis aux boycotts d'exister. Elles ont produit des pamphlets. Elles ont pensé cette rupture avec la couronne britannique. Elles étaient sur le champ de bataille, les fameuses camp followers, donc les suiveuses de guerre, pour reprendre l'expression utilisée par Marion Trévisy pour son ouvrage sur les femmes dans les armées révolutionnaires et napoléonienne. Donc, elles ont participé, elles se sont vues refuser les droits politiques. Abigail Adams n'a pas particulièrement levé le poing pour demander des droits politiques à ce moment-là. Elle a dit dans sa correspondance, j'aurais bien aimé avoir le droit de vote si j'avais pu, mais elle ne cherche pas à militer pour cela. Par contre, je trouve que cette phrase-là donne à voir, en fait, l'idée de si on doit faire une révolution, enfin, quel est notre modèle de société? C'est important.
C'est très intéressant. Puis j'aime bien le côté peut devenir un tyran s'il le peut. On voit bien toute la philosophie des Lumières sur le despotisme, ses limites, etc. C'est vraiment très intéressant. Alors vous le dites, la société qui sort de tout ça, c'est une société coloniale et esclavagiste. On refait pas toute l'histoire, mais 1861, 1865, guerre de sécession, abolition de l'esclavage, mais maintien de la ségrégation et de l'inégalité. Là, vous mettez en lumière une militante, Harriet Tubman, qui est afro-descendante et qui lutte contre l'esclavage. Là, ce qui m'intéressait, c'est on le sait, dans d'autres champs des études coloniales, la domination coloniale est toujours une domination sur les corps, et particulièrement sur les corps des femmes, qui sont des corps sexualisés, dominés, détruits, asservis, etc. Est-ce que dans cet exemple-là de Harriet Tubman, il y avait cette... cette aussi cette mise en valeur là de cette domination corporelle?
Alors oui, en partie, effectivement. Le choix d'Harriet Tubman, alors c'était un choix pour parler des luttes pour l'émancipation des esclaves. C'était un choix qui était presque naturel parce que Harriet Tubman, alors on parlait des billets de banque, a failli être le billet de $20 jusqu'à la première élection de Donald Trump, qui en plus, le billet de $20, c'est Andrew Jackson et Donald Trump... est un admirateur personnel d'Andrew Jackson. Donc voilà, ne risquez pas de voir Harriet Tubman arriver sur ce billet de banque. Alors, j'ai choisi de partir d'elle pour plusieurs raisons. Outre le billet de banque, c'est que... Alors, c'est un destin un peu... alors, typiquement, dans le genre galerie de portraits, c'est un destin assez exceptionnel, en fait. Hein. C'est une femme qui est née en servitude, qui a été... séparée à plusieurs reprises de sa famille, qui s'est mariée avec un noir libre et qui a été menacée d'être vendue et donc séparée à nouveau de sa famille. Donc elle choisit de s'enfuir pour reprendre le contrôle de son destin. Puis une fois qu'elle a gagné les États libres, elle devient elle-même une conductrice de ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin, donc le chemin qui conduit vers l'émancipation des personnes mises en esclavage. Et après cela, elle milite pour l'abolition de l'esclavage et ensuite pour les droits des femmes. Enfin bon, bref, voilà, on l'a surnommée Moïse, puisque elle aidait les esclaves à se libérer. Donc c'est vraiment le personnage qui va englober quelque part tout le récit. Et en même temps, les historiens et les historiennes disent Harriet Tubman, elle n'est pas toute seule là-dedans. C'est une histoire, l'histoire des luttes de ces femmes mises en esclavage ou anciennement mises en esclavage pour l'émancipation. C'est une lutte qui est pas celle d'une seule femme, en fait. C'est une lutte qui est structurelle aussi à ce qu'est l'esclavage, la mise en esclavage pour les femmes. Effectivement, leurs corps leur sont dépossédés, leurs corps sont interprétés aussi. On a une production de discours qui vise à mettre en avant le fait que, par exemple, les femmes d'origine africaine ne ressentiraient pas la douleur en accouchant, ce qui symboliquement est très très fort, parce que c'est une façon de dire qu'elles ne sont pas les descendantes d'Ève. Et donc, comme elles ne ressentent pas la douleur, elles peuvent produire des enfants, donc produire des esclaves. Et en fait, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que l'esclavage pour les femmes. C'est un travail qui a double tranchant, en fait. C'est l'historienne Jennifer Morgan qui utilise le terme labor pour parler du travail des femmes, pour dire c'est un double travail. On a un peu le même jeu de mots en français, un jeu de mots qui est épouvantablement tragique. C'est le travail physique, le travail dans les champs, mais c'est aussi le travail de l'accouchement. C'est-à-dire que la mise en esclavage pour les femmes, c'est aussi une mise à disposition sexuelle et une dépossession de leur corps, de leur sexualité, de leur maternité aussi, parce qu'on leur dénie la possibilité d'éprouver un sentiment maternel, puisqu'on peut leur prendre leurs enfants à tout moment. Et donc, tous ces éléments-là concourent à rendre l'expérience de la servitude pour les femmes pas pire ou meilleure que celle des hommes, mais essentiellement, fondamentalement, différente. Et dans le choix d'Harriet Tubman de quitter sa mise en esclavage et d'essayer de retrouver la liberté, il est informé aussi par cette violence qu'on lui fait subir sur les liens intimes et familiaux qu'elle a pu constituer. Sans compter aussi l'esclavage physique, qui est le fait qu'elle-même est handicapée, puisqu'elle a pris un poids sur la tête, un projectile qui faisait plusieurs kilos sur la tête quand elle était enfant, et elle est restée handicapée depuis. Mais donc effectivement, l'esclavage pour les femmes est une expérience qui est fondamentalement différente. Ouais.
Alors merci pour tout ça. On s'achemine vers la fin de l'entretien, bien malheureusement, parce qu'on vous écouterait encore bien longtemps. Et je vais faire un saut alors complet. Désolé, j'aime beaucoup le 19e et le 20e siècle. Hein, y a pas de problème. Mais voilà, vous pouvez croiser Rosie la riveteuse comme symbole de l'effort de guerre de Seconde Guerre mondiale, des exemples sur les luttes des suffragettes, Rosa Parks, etc. On voyage à travers ces histoires des États-Unis et on finit sur deux personnes très importantes aujourd'hui, qui sont la chanteuse Beyoncé et la candidate aux élections présidentielles Kamala Harris. Et pourquoi je vais directement vers ça? Parce qu'on trouve en fait dans la société américaine des injonctions envers ces femmes-là, qui sont des femmes puissantes, qui sont pour Beyoncé un symbole qui joue de la propre sexualisation, etc. On retrouve des choses de cette société coloniale où les injonctions par rapport au corps de cette femme noire pour Beyoncé et pour Kamala Harris sont d'une certaine manière d'une permanence un peu triste. Alors voilà, pour conclure, peut-être Beyoncé ou Kamala, je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous allez vous raconter de cette société actuelle par ces deux exemples-là?
Alors, pour le cas de Beyoncé, c'est vrai que je trouve que ça fait bien continuité avec ce dont on parlait, et puis même avec 1619 d'une certaine manière, puisque Beyoncé, c'est au départ donc une chanteuse africaine-américaine qui était dans un groupe de R&B et qui mobilise une rhétorique féministe depuis une dizaine d'années. Donc c'est arrivé un petit peu tardivement dans sa carrière d'une certaine manière, mais c'est pleinement assumé. C'est d'abord du féminisme, ensuite c'est vraiment du féminisme noir aussi. Et ça va s'inscrire effectivement dans des commentaires qu'elle a pu recevoir sur sa façon de mettre en scène son corps, sa sexualité, et de se faire entendre dire qu'elle était vulgaire. Vulgaire parce qu'elle a des formes et elle assume pleinement sa sexualité. Et certaines des critiques qu'elle a pu essuyer venaient soit de féministes noires qui lui reprochaient justement de desservir la lutte, soit évidemment d'hommes et de femmes qui ne sont pas du tout gagnés, sensibilisés à ces luttes-là. Mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est justement tous les clichés qui ont commencé à être véhiculés à l'époque de l'esclavage sur les femmes noires et leur sexualité supposément insatiable qui venait justifier leur exploitation sexuelle. Et quelque part, ce qu'on voit avec Beyoncé, c'est comment elle se réapproprie ces codes-là pour justement sortir d'une dynamique d'exploitation, pour choisir le tempo et la façon qu'elle va avoir de représenter son corps, sa sexualité. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant, parce que on le voit de plus en plus dans sa carrière, que c'est un discours qu'elle maîtrise de plus en plus, qu'elle assume de plus en plus, et qu'elle va connecter en fait à des luttes pour les droits civiques, pour les droits des femmes. On le voit dans certains de ses albums, dans le documentaire qu'elle a fait aussi récemment, qui s'appelait Homecoming, qu'elle intercale avec plein de citations de penseurs des droits civiques, de penseurs africains-américains et africaines-américaines, et afrocentristes pour certaines aussi. Donc y a vraiment cette idée-là qu'elle s'inscrit dans une continuité, dans le temps long d'une histoire des Africains-Américains. Donc je trouvais que c'était un cas assez intéressant. Et par ailleurs, ce que je trouvais intéressant dans le fait de traiter de Beyoncé, c'est que bon, j'ai un attrait pour la pop culture en tant que citoyenne du tout venant, voilà. Mais il y avait toute la question de savoir, est-ce que Beyoncé peut être un objet d'histoire, est-ce qu'elle peut être un sujet d'histoire, et qu'est-ce que ça apporte de réinjecter un peu de contexte historique dans la compréhension d'une icône pop culturelle. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant, parce que justement, voilà, ça permettait d'inscrire la prise de position, les dix dernières années de la carrière de Beyoncé dans ce temps long de l'histoire africaine-américaine, mais aussi dans un autre temps long, celui de... Alors, on parlait au tout début de l'entretien de ce que c'est que l'histoire des femmes et ce que les femmes ont été mises à l'écart de l'histoire pendant longtemps. Bah, parmi les raisons qui font que les femmes ont été mises à l'écart de l'histoire, c'est qu'il y avait aussi la question de qu'est-ce qui est un bon sujet d'histoire ? Quels sont les thèmes qui sont pertinents pour faire de l'histoire? Et typiquement, les femmes dans la culture populaire, c'était considéré comme étant un sujet pas très sérieux. Et presque terminer sur Beyoncé, c'était une façon de revenir vers l'idée que même la pop culture peut être historicisée et peut être se prêter à une réflexion sur justement la place des femmes dans la société. Et juste pour terminer sur Kamala Harris, bon, c'était un petit peu plus opportuniste, on va dire. J'ai fini de rédiger cet ouvrage-là pendant la campagne présidentielle de 2024. Alors, je voulais terminer sur la place des femmes en politique. Initialement, ce n'était pas Kamala Harris qui devait ouvrir ce chapitre. C'était Alexandria Ocasio-Cortez. Le cas de Kamala Harris, il était intéressant pour moi parce que il permettait de questionner voilà, un des vieux sujets sur la place des femmes en politique, celui du plafond de verre. Et une question à laquelle, évidemment, je ne pouvais pas avoir la réponse en 2024 et on ne l'a toujours pas en 2025 sur l'échec de sa campagne présidentielle, c'est-à-dire est-ce que c'est le plafond de verre qui a fonctionné à plein ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Évidemment, Kamala Harris, elle avait plein de défauts qui font qu'elle n'a pas gagné cette campagne présidentielle, qui ne peuvent pas se résumer à juste c'est parce que c'est une femme qu'elle ne l'a pas emportée. Mais on ne peut pas évacuer complètement cette question-là, puisque de fait, une rhétorique profondément misogyne a été mobilisée à la fois par le candidat républicain, Donald Trump, par son vice-président, mais aussi par ses soutiens. Je pense notamment à Elon Musk qui faisait valoir la cavalerie arrive sur Twitter le jour des élections pour dire allez, les hommes masculins, allez voter pour empêcher une bonne femme d'être à la Maison-Blanche. Donc on ne peut pas complètement l'évacuer, selon moi.
Alors merci pour ça et pour tous les... Là, j'aime bien parce qu'il y a quand même une tentation de légitimer votre chapitre sur Beyoncé. Alors que moi, grand fan de Beyoncé depuis le début, bah, le chapitre en lui-même, c'est pas que une histoire de ce que Beyoncé a fait, mais au contraire, vous montrez tous les conflits dans le féminisme américain. J'ai bien aimé les Riot Girls et les féministes qui envoient des choses à Beyoncé pour essayer de la convaincre, etc. Et je termine sur cette note qui est la vôtre, hein, qui est une note... Plus tragique, qui est que quand on fait l'histoire des femmes, on fait aussi cette histoire du genre et on fait aussi cette histoire de ce que les hommes, de comment les hommes réagissent à tout ça. Et il y a cette fameuse théorie du backlash, du retour du bâton qui avait été théorisée par Suzanne Faludi dans les années 90 par rapport à la contre-offensive masculine des années 80. On voit qu'on est en ce moment aux États-Unis en plein dedans. Oui. Et c'est pour ça que ce livre-là, Des femmes en Amérique, une histoire des États-Unis de Pocahontas à MeToo, est à mon avis totalement important. Je vous remercie beaucoup, Virginie Adan. Et
merci beaucoup.
Il y a encore plein de livres. On les lira avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Merci.